35 ans qu'on fête la science tous les ans. Pendant une semaine, les chercheurs et les scientifiques sont invités à sortir de leur laboratoire pour aller à la rencontre du public, pour expliquer, pour raconter, partager leur savoir, comme ici, à la Cité des Sciences, qui fête, elle, ses 30 ans cette année. Expositions, documentaires, livres de vulgarisation, vidéos sur YouTube ou pourquoi pas même, allez, émissions de radio, autant de façons de raconter le grand récit des sciences en 2016. Comment rapprocher la science des citoyens, c'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre ici à la Cité des Sciences dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette fête des sciences en direct, donc de la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Porte de la Villette, nous vous avons concocté un plateau aux petits oignons pour parler de vulgarisation et de ce rapprochement intime entre la science et les citoyens. Nous retrouverons tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, Bruno Macquart, le président d'Universcience, qui regroupe la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, qui fêtera, lui, ses 80 ans l'an prochain. Encore un anniversaire, celui du camarade Mathieu Vidard, qui fête les 10 ans de son émission scientifique La Tête au Carré sur France Inter, et qui publie pour l'occasion un petit carnet scientifique tout rouge aux éditions Grasset. Il sera également autour de la table. Nous retrouverons aussi la documentariste Claude-Julie Parizeau, dont le dernier film récemment sélectionné au festival Paris Science, Les Nouveaux Guerriers des Champs, est toujours visible sur la plateforme Arte Plus 7. Et puis nous serons également avec Léo Grasset, alias Dirty Biology, sur YouTube, les youtubeurs étant à l'honneur pour cette 25e fête des sciences. Mais avant de retrouver tout ce beau monde au rez-de-chaussée de la Cité des Sciences et de l'Industrie dans l'auditorium, ce sera donc dans un petit quart d'heure. Eh bien, nous sommes ici au premier étage, à l'entrée de l'une des expositions temporaires. Alors, ce n'est pas la toute nouvelle expo Quoi de Neuf au Moyen-Âge, ça il faudra attendre La Fabrique de l'Histoire demain matin. Emmanuel Laurentin a enregistré tout à l'heure ici même une émission que vous pourrez entendre demain à 9h. Non, nous sommes devant l'exposition Mental Désordre en compagnie de Virginie Lacombe. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Vous êtes muséographe, chef de projet sur cette exposition que nous allons donc visiter ensemble dans le quart d'heure qui vient, avec une question donc en toile de fond, comment exposer la science et qui plus est ici un domaine particulier de la science qui concerne donc la médecine, la psychiatrie et les troubles mentaux. Alors dites-nous, Virginie Lacombe, un premier mot, c'est quoi le premier parti pris de cette exposition ? Comment est-ce que vous avez pensé justement la représentation de ces troubles mentaux ?
Alors en fait, c'était une question très délicate qu'on s'est posée vraiment tout au long de la conception de ce projet, qui a été conçu en coproduction avec deux musées européens, Eureka en Finlande et le Pavillon des Connaissances au Portugal. On a beaucoup échangé à ce niveau-là. On aurait pu faire une exposition de panneaux très explicative, mais qui aurait été, on aurait loupé notre objectif, qui est de sensibiliser vraiment le grand public aux problèmes de santé mentale et de déstigmatiser les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc pour ça, on a pris le parti de réaliser une exposition immersive pour plonger le visiteur dans un univers particulier. Et d'ailleurs, on le voit bien dès qu'on entre dans l'exposition, puisque cette exposition a tout d'abord un aspect scandinave, puisqu'elle a été fabriquée par nos amis finlandais, avec la présence de bois, de grands éléments en bois dispersés dans l'espace. Et puis, on a pris le parti de donner un aspect chaleureux et familier à cette exposition, qui traite d'un sujet, au contraire, qui peut vraiment faire peur.
C'est un sujet effectivement un peu difficile. Alors effectivement, vous le disiez, on va rentrer dans l'exposition dans une seconde. Il y a plein de petits modules, certains dans lesquels on peut entrer. Ici, nous sommes donc debout sur un vaste cercle blanc avec des neurones. C'est une exposition qui avait avant tout une ambition scientifique, c'est-à-dire apporter d'abord un regard scientifique sur les maladies et les désordres psychiatriques, ou au contraire, est-ce que c'était plutôt à destination d'un public plus large et en parler dans un contexte plus social ?
Alors c'est à destination vraiment du grand public. public. C'est une exposition de sensibilisation à ces problèmes de santé mentale, de troubles psychiques. Déjà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot trouble psychique, hein? C'est quelque chose de très très vaste, hein? Ça recouvre tout un tas de maladies qui peuvent être très passagères ou au contraire des maladies au long cours. Et puis, c'est une exposition qui est destinée aux familles. Donc, on veut vraiment sensibiliser les familles. Les jeunes, à partir de l'âge de 10 ans, peuvent venir visiter l'exposition pour y trouver des éléments de réponse ou être immergés dans des situations qu'ils peuvent vivre au quotidien sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Donc ça nous semblait important que de toucher vraiment un nombre très très large de personnes. Et puis il ne faut pas oublier non plus que les troubles psychiques, selon l'Organisation mondiale de la santé, touchent une personne sur quatre au cours de sa vie. Ce qui est quand même énorme. On est tous plus ou moins concernés par ce problème-là en fait.
Alors on va avancer un peu dans cette exposition, on va voir comment vous avez justement représenté, c'est une problématique complexe, hein. Comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on représente, déjà c'est difficile d'en parler, alors le représenter c'est encore une autre étape, pour parler, on va le voir, de la dépression, de la paranoïa, des schizophrénies. Alors on est ici, donc dans la première partie de l'exposition, face à un bureau, et cette première partie d'exposition est plus, vous l'avez voulu, plus historique, Virginie Lacombe.
Oui tout à fait, alors il y a trois grandes familles d'éléments en fait dans l'exposition, des éléments sur les savoirs, ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir au sujet des troubles psychiques, des éléments plus immersifs, on verra ça tout à l'heure, comment est-ce qu'on vit quand on souffre d'un trouble psychique, et puis des éléments plus qui donnent des outils de prévention. Donc là, on est devant un très beau bureau qui est surmonté d'un décor peint sur du bois en noir et blanc. Ce sont des décors qui ont été peints à la main par une artiste finlandaise et qui sont en lien avec ce que raconte en fait l'élément d'exposition. Donc là, c'est un élément qui traite de l'histoire, comment la dépression et la schizophrénie ont été traité à travers les différentes époques. Et ce que met en avant cet élément, en fait, c'est que la façon dont on a soigné les personnes qui souffraient de ces troubles a évolué en fonction du regard que la société portait sur ces personnes. Donc, par exemple, dans l'Antiquité, les personnes qui souffraient de schizophrénie, on prenait vraiment soin d'elles. On les envoyait à la campagne, on privilégiait un environnement calme, serein, alors que dans les années 50, on les soignait à coup d'insuline, le choc insulinique, par exemple. Donc on voit bien l'évolution du regard de la société à travers cet élément.
Ce qu'on voit dans ce début, et puis il y a une autre pièce qui est sur ma gauche qui s'appelle « Éclairage sur l'histoire de la folie » avec plusieurs petites fenêtres qui montrent effectivement à différentes époques les perceptions de différents types de troubles psychiatriques, c'est que l'histoire de la folie, c'est une histoire avant tout relative. Hein. Ça dépend non seulement du temps, mais aussi des sociétés.
Absolument, ça dépend du temps, des sociétés, justement. Quel regard la société porte sur les personnes malades, comment est-ce qu'elle les traite. Et donc on voit bien... On voit bien aujourd'hui que le regard est en train de changer et c'est l'objectif de cette exposition justement, c'est de bousculer un petit peu les idées qu'on peut avoir là-dessus.
Changer votre regard sur les troubles psychiques, c'est le soutien. Alors on va avancer un peu donc dans cette exposition. Il y a plusieurs, donc je le disais tout à l'heure, des modules fermés par des rideaux qui permettent de rentrer et qui proposent donc, vous le disiez, des expériences immersives. On a l'impression que immersion, interactivité, c'est devenu un peu les deux mots magiques de toute muséographie aujourd'hui en 2016. C'est le cas ?
C'est pour nous ce qui est le plus intéressant dans le rapport aux visiteurs, c'est-à-dire que de pas simplement toucher son intellect, mais en fait toucher toute sa personne, ses émotions, même au niveau de son corps, donc qu'il puisse être immergé pour s'imprégner du message qu'on a envie de lui faire passer.
Alors là, par exemple, avant de rentrer dans la cabine pour cette expérience immersive, vous pouvez nous décrire ce qu'on voit devant nous. Il y a deux grands miroirs avec des masques.
Oui, alors là, c'est justement un outil de prévention qu'on a mis en place pour cette exposition. Donc ce sont des masques qui représentent chacun une émotion de base, donc la peur, la colère, la tristesse. Et il s'agit pour le visiteur de mimer l'émotion avec son corps. Donc quand l'émotion est trop difficile à exprimer avec les mots, on peut passer par le corps. Le corps ou donc c'est des outils qui sont utilisés notamment à travers l'art thérapie, le théâtre, la danse, énormément.
Alors là, on vient de rentrer pendant qu'on parlait, d'ailleurs on entend la sonorité a changé un peu, dans un de ces modules immersifs. Décrivez-moi, Virginie Lacombe, où est-ce qu'on se situe ici et qu'est-ce qu'il y a autour de nous ?
Alors ici, nous sommes dans un salon de coiffure, sur le mur des photos, un siège de coiffeur, et puis quand on met l'élément en fonction...
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Voilà, le coiffeur nous parle. Le coiffeur invite le visiteur à s'asseoir.
Pourquoi un instant ? Le rendez-vous était fixé. Pourquoi ça lui prend tout ce temps au coiffeur ? Que fait-il dans l'arrière-boutique ?
On dirait qu'il parle au téléphone. Mais avec qui parle-t-il ?
Oui, nous l'avons trouvé.
Donc là, la lumière baisse et on voit des silhouettes inquiétantes dans la vitre de la porte du coiffeur.
Vous n'avez pas remarqué, ils t'ont suivi pendant tout le trajet.
Vous voulez de la lecture ? Un café ?
Du café ? Pourquoi ils t'offrent du café ? On n'est pas dans un café ici. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il a dû mettre quelque chose dans le café. Ce n'est pas juste du café.
Donc en fait, là, l'idée, c'est la voix intérieure. On va sortir pour que ce soit plus lisible. C'est la voix intérieure d'une personne qui souffle de troubles paranoïaques, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est en fait la voix intérieure d'une personne qui se rend chez le coiffeur, ce qui peut paraître quelque chose de très ordinaire pour chacun d'entre nous, mais qui peut devenir très compliqué quand on souffre notamment de psychose, donc la déformation en fait de la réalité. Voilà, prendre les transports en commun, aller chez le coiffeur, ça peut vraiment devenir très compliqué. Donc à travers cet élément, on souhaite faire comprendre à nos visiteurs que justement, les personnes qui souffrent de troubles psychiques peuvent avoir des difficultés au quotidien qu'on ne soupçonnerait pas finalement.
On entend, vous voyez que c'est les expériences immersives fonctionnent puisque le boucan que vous entendez derrière, c'est dans un autre des modules immersifs où il y a un groupe d'adolescents qui apparemment réagit relativement vivement. C'est dans quel module ils sont exactement ?
Alors c'est un module exposition sur les phobies et là ils sont plongés dans le noir total. Donc imaginez un groupe d'adolescents dans le noir total. Voilà, ça fait du bruit.
Et puis il y a des photos qui sont projetées aussi, c'est ça ?
Oui, il y a des images qui sont projetées, des lignes de fuite. Donc il y a trois phobies qui sont illustrées. Donc la phobie des hauteurs, la phobie du noir et la phobie des espaces confinés. Donc à un moment donné, on a la sensation que les murs se rapprochent.
Voilà, d'où les petits bruits qu'on entend et les cris que vous avez pu entendre tout à l'heure. On va s'acheminer tout doucement vers la fin de cette exposition. Là, il y a une espèce de drôle de machine, avec de la lumière et des espèces de turbines. Qu'est-ce que c'est exactement, Virginie Lacombe ?
Alors, c'est notre broyeur de soucis. Donc là, en fait, on invite les visiteurs à noter sur un papier ce qui les inquiète, ce qui les préoccupe, et puis à glisser la feuille dans le broyeur. Donc ça signifie pas que les soucis disparaissent. En revanche, ça met l'accent sur le fait que c'est important de pouvoir verbaliser ce qui nous fait aller mal. Donc là encore, c'est un outil de prévention.
Oui, alors c'est important ça, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a donc les modules immersifs et les modules préventifs. C'est-à-dire qu'il y a ici une volonté d'impliquer chacun, enfin chaque visiteur en tout cas, dans son propre rapport à l'angoisse, à l'anxiété.
Oui, tout à fait, pour pas que ça devienne un problème de santé mentale, justement. On est tous concernés par le problème. Et puis, il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé mentale. On insiste souvent sur la santé physique, mais la santé mentale, c'est tout aussi important. C'est un des messages de cette exposition, en effet.
Et quand on voit le nombre de petits papiers broyés dans votre broyeur à soucis, apparemment, il y a beaucoup de soucis qui ont eu besoin d'être broyé ici.
Absolument, oui, ça se remplit tous les jours de manière... C'est assez impressionnant, oui.
Et allez, pour conclure cette visite, Virginie Lacombe, tous ces modules de bois sont agrémentés de portraits, de grands portraits, de beaux portraits de gens, d'hommes, de femmes, de différents âges, de différentes ethnies. Racontez-moi, décrivez-moi un peu le visage qu'on voit en face de nous juste en ce moment.
Alors là, c'est le visage d'une femme qui a une cinquantaine d'années, qui a une expression peut-être un petit peu... nerveuse ou on ne sait pas si elle est en colère, si elle est inquiète ou si c'est juste sa façon de regarder les gens. Donc il y a des grands portraits comme ça qui parsèment l'exposition. Ce sont à la fois des personnes malades et des personnes qui ne sont pas malades. Et voilà, donc pour dire que finalement, ce sont des troubles qui ne se voient pas. Et c'était important pour nous de faire apparaître ça dans l'exposition.
Et qui peuvent aussi toucher tout un chacun. Merci beaucoup Virginie Lacombe pour cette visite. L'exposition temporaire donc Mental Désordre, elle est visible jusqu'à quand ici à la Cité des Sciences ?
Jusqu'au 6 novembre.
Merci infiniment. Merci Virginie.
méthode scientifique, Nicolas Martin.
Sur France Culture, nous sommes toujours ici en direct de la Cité des Sciences pour la Fête des Sciences, mais également pour les 30 ans de la Cité des Sciences. Vous pouvez également nous suivre virtuellement sur Twitter en direct, @laméthodefc. Et puisque c'est le 25e anniversaire, la 25e Fête des Sciences, un quart de siècle, ça fait déjà pas mal, puisque ce sont les 30 ans de la Cité des Sciences, puisque ce sont les 80 ans bientôt du Palais de la Découverte, et puisque ce sont aussi les 10 ans de la Tête au Carré, tous ces anniversaires nous ont conduits à nous poser cette question. Comment faire en 2016 pour rapprocher la science ici des citoyens. Il faut dire que c'est un peu la question qui s'est posée à l'Académie des sciences qui, elle, fête ses 350 ans, encore un anniversaire. Vous voyez, Bruno Macquart, vous avez du chemin à parcourir, 350 ans avant d'arriver à fêter cet anniversaire vénérable. Donc pour tenter de trouver des pistes de réponse à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Macquart, précisément président d'Universcience, qui est l'adjonction de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais des sciences. Nous sommes également avec Mathieu Vidard de La Tête au Carré, qui publie son petit carnet scientifique pour les 10 ans de La Tête au Carré chez Grasset. Nous sommes en compagnie également de Claude-Julie Parizon, qui est documentariste, et de Léo Grasset, youtubeur éminent, mieux connu sous le nom de Dirty Biology. Et pour faire donc le tour de cette série d'anniversaires, commençons par celui de nos hôtes qui nous accueille ici à la Cité des Sciences, qui a ouvert ses portes, la Cité des Sciences, en mars 1986. C'était il y a 30 ans donc. Écoutez, le 13 mars 1986 sur Antenne 2.
Une cathédrale pour la science et l'industrie s'est ouverte aujourd'hui à Paris. C'est la fameuse Cité des sciences et des techniques de la Villette. C'est le plus grand musée du genre jamais construit au monde. Il coûte cher, 4,5 milliards de francs pour un projet, il est vrai, considérable, qui occupe 150 000 mètres carrés. François Mitterrand l'inaugurait tout à l'heure, alors que les travaux viennent tout juste de se terminer, en tout cas pour la première tranche. L'ouverture officielle, c'est pour demain, c'est alors que le public pourra investir la cité. Ce ne sera sans doute qu'une prise de contact, vous le voyez, puisqu'il faut des jours entiers pour découvrir toutes les richesses de ce musée du 21e siècle. Alors Jacques Violet et François Granier l'ont en avance visité pour vous, c'est une avant-première.
La science se reflétant dans le futur, la géode, cette boule d'acier poli de 36 mètres de diamètre qui abrite déjà une salle de cinéma domine la Cité des Sciences. Un bâtiment gigantesque, 150 000 mètres carrés de marbre gris, de poutrelles d'acier et de façades de verre. 270 mètres de long, 110 de large et 40 de haut. 2,5 fois Beaubourg, mais le jour de son inauguration, le Temple des Sciences est encore un immense chantier. Impression de gigantisme également à l'intérieur. Dans le grand hall, au centre du bâtiment, des escaliers roulants escaladent 12 mètres de hauteur et permettent d'accéder aux expositions permanentes. Conçu pour tous les publics de 3 à 83 ans, on entre ici pour s'informer, comprendre, manipuler, participer au maximum. Premier secteur, le fond des mers et les étoiles, avec des maquettes grandeur nature, le sous-marin français le Nautile et le troisième étage de la fusée Ariane. Des satellites, des modules du laboratoire spatial permettront de prendre la vraie mesure des engins de l'espace et comprendre la pesanteur sous l'œil d'un astronaute dans son fauteuil volant. Dans la section mathématiques, l'audiovisuel associé à l'informatique pour comprendre la force de Coriolis, le théorème de Pythagore ou les lois de la physique expliquées de façon attractive. Dans le monde des sons, un spectrographe vous permettra de voir la trace de votre voix sur un écran en couleur. Les enfants n'ont pas été oubliés. Pour eux, l'inventorium où ils pourront regarder vivre les fourmis sous la terre et les poissons dans les aquariums. Reste une question, combien coûte cette vulgarisation scientifique tous azimuts? Réponse, 4,5 milliards pour la construction du bâtiment, 600 millions de francs pour le fonctionnement en 86. Certains parlent de gouffres financiers, la Villette en a connu d'autres au temps des abattoirs.
Voilà, on parle en franc, bien sûr. On entendait dans ce reportage le gigantisme, ces escalators de 12 mètres. Nous sommes juste en dessous et effectivement, c'est un vaste espace que vous avez là, Bruno Macquart. On entendait une cathédrale pour la science et l'industrie. Ça veut dire que nous sommes toujours ici dans un temple de la science. La science, c'est sacré en 2016, toujours?
Alors, c'est pas un temple, c'est une cité. Ce qui veut dire que vous trouvez ici mille manières de vous intéresser à la science. Puisque vous avez des expositions, vous avez des ateliers, vous avez la géode derrière nous avec des spectacles immersifs, vous avez un planétarium, vous avez la troisième plus grande bibliothèque de France sous nos pieds, vous avez la cité des enfants derrière nous, et puis vous avez évidemment des choses nouvelles, puisqu'il y a 30 ans Internet n'existait pas, mais depuis la révolution numérique est passée par là, et donc nous avons de nombreuses activités sur le net, et en particulier une web TV, Universcience.tv, qui est la plus grande en langue française, avec plus de 3000 vidéos en accès libre, et sur laquelle nous venons d'ailleurs d'ouvrir une case pour les youtubeurs, puisque nous sommes ouverts à notre temps.
Donc voilà, Léo Grasset, maintenant vous avez une case ici pour vous dédiée sur la web TV de la Cité des Sciences. Mais quand on a un espace, on entendait, vous m'arrêtez, 150 000 mètres carrés, c'est gigantesque.
C'est assez grand, oui, c'est assez
grand. Quand
on
a un espace aussi vaste dédié donc à la science et à l'industrie, rappelons-le, comment est-ce qu'on organise non seulement les expositions temporaires, permanentes, comment est-ce qu'on fait évoluer un dinosaure de cette ampleur-là, Bruno Macquart?
D'abord, on écoute ses publics. Depuis l'ouverture, donc depuis 1986, en 30 ans, ce sont quelques 89 millions de personnes qui ont franchi nos portes. Et des personnes de toutes sortes, et des enfants, puisque nous nous adressons aux enfants à partir de 2 ans, ce qui, à cet âge-là, on lit pas, donc c'est un public assez particulier, jusqu'évidemment leurs grands-parents. Et puis nous accueillons des gens de toutes origines, qui connaissent les sciences ou qui ne les connaissent pas. Bah, les gens, ils vous parlent dans un musée. En général, ils vous parlent. Et puis nous, on a développé des techniques qui sont que, en particulier au Palais de la Découverte, on met des gens en face de nos visiteurs, on met des médiateurs, puisque nous sommes finalement le troisième homme dans une relation entre le scientifique et puis le grand public. On est là pour jeter des ponts entre la science et le grand public. Et ce pont, c'est un pont actif, puisqu'encore une fois, nous sommes des institutions dites de médiation. Et la médiation, nous utilisons beaucoup de gens pour la faire. C'est-à-dire que les gens peuvent s'adresser à eux, poser des questions, et puis évidemment calibrer leur discours sur les gens qu'ils ont en face d'eux. C'est une manière très moderne de faire les choses. Très moderne, mais à l'ancienne, puisque au Palais de la Découverte, vous avez entre 50 et 60 exposés par jour. Alors ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on a fait un peu différemment, puisque la médiation, on l'a fait avec des expériences, comme vous venez de le voir avec Virginie Lacombe dans l'exposition « Des ordres mentales ». Les trésors de la mécanique et aujourd'hui les trésors du numérique nous permettent d'avoir 1000 dispositifs pour que les gens fassent, expérimentent et comprennent avec les mains. Et
vous pas transformez simplement le public en expérimentateur, donc vous le mettez dans la peau du scientifique, c'est ce que vous nous dites?
Alors on ne les met pas dans la peau du scientifique, mais on considère que expérimenter les choses soi-même, c'est un moyen complémentaire de comprendre, qui va au-delà de, j'allais dire, de moyens classiques et d'entendre, même si vous êtes un média audio qui est absolument essentiel, et puis de lire. Alors, le numérique aujourd'hui, ça permet de faire des choses absolument extraordinaires, ça a démultiplié nos capacités d'intervention. Si vous allez dans Moyen-Âge, vous avez un bac de fouilles, c'est-à-dire vous pouvez vous prendre pour un archéologue, on vous donne des outils, il y a du sable, vous creusez et vous trouvez des artefacts, des objets, comme si vous étiez un vrai archéologue.
Je le disais tout à l'heure avec Virginie Lacombe, on l'entend, les deux mots, on a l'impression en termes de muséographie scientifique, c'est interactivité et immersion. Aujourd'hui, Bruno Macquart, est-ce que les nouvelles technologies, est-ce que l'interactivité, la réalité virtuelle, quels sont les nouveaux moyens pour vous d'aller un cran plus loin que cette espèce de dichotomie dont on a l'impression qu'elle est l'alpha et l'oméga de la muséographie scientifique depuis 10 ans déjà?
Alors, si je voulais être un peu provocant, je dirais qu'ici, on n'a rien à montrer. À la différence des musées, où vous avez des choses, des objets, des tableaux, des machines. Ici, finalement, on expose des idées. C'est un peu l'insoutenable légèreté des centres de sciences, qui ont donc inventé, dès le départ, des moyens de faire très différents, puisque tout est dans la manière, tout est dans la méthode. C'est un petit clin d'œil au titre de votre émission, évidemment. La méthode des centres de sciences, c'est justement de trouver des relations au public différentes de celles qu'on avait d'habitude, l'habitude de trouver dans les établissements culturels. Donc, encore une fois, c'est la médiation par les gens et puis la médiation par l'expérience. Demain, le numérique, ça va nous permettre, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, de proposer à nos visiteurs des expériences assez différentes. Alors, assez différentes de quoi? Assez différentes d'abord de celles qu'ils trouvent chez eux, parce que sinon ils restent chez eux. Nous, notre intérêt, c'est que les gens ils viennent ici.
Alors, j'y arrivais. Quel intérêt en 2016 de se déplacer jusqu'au musée alors qu'on a accès à tous ces univers virtuels directement depuis son téléphone ou son ordinateur?
Eh bien, parce que les univers virtuels, ils sont souvent des univers solitaires. Et ce dont on se rend compte en avançant, c'est que les gens éprouvent de plus en plus le besoin d'être ensemble. Ici, nous réunissons des communautés. Par exemple, sur le jeu vidéo, des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, qui passent leur temps sur des écrans, mais qui se retrouvent dans cette maison par centaines pour assister à des masterclass. Plus il y a de numérique, plus il y a besoin d'humains, plus il y a besoin d'endroits où vous êtes ensemble, plus il y a besoin d'endroits où rencontrer des gens, plus il y a besoin d'endroits où faire aussi des choses avec ses mains en utilisant les outils numériques. Et nous sommes, je pense, devant une petite révolution de nos centres de sciences qui vont devenir des lieux de sociabilité d'un nouveau genre.
Alors j'aimerais dire deux choses avec vous. J'aimerais que vous nous disiez un mot de cet espace ici à la Cité des Sciences qui traite de l'actualité des sciences. Parce que vous avez les expositions permanentes, les expositions temporaires comme celle qu'on a visitée ou celle qui vient d'ouvrir sur le Moyen-Âge aujourd'hui. Et puis vous avez cet espace que vous avez choisi de dédier à l'actualité des sciences. Qu'est-ce que c'est? Comment il tourne et comment vous l'avez pensé, Bruno Macquart?
Alors c'est un espace, c'est trois espaces d'abord. C'est un espace physique, science actualité au-dessus de nous. C'est un espace sur le web, et puis c'est la Web TV dont je parlais tout à l'heure, Univers Sciences TV. C'est animé par une équipe de journalistes, et des vrais journalistes, donc c'est le métier, et qui fonctionne comme une rédaction. Ils fonctionnent comme une rédaction, et leur métier, c'est de prendre l'actualité chaude et de la faire décanter pour expliquer au public ce qui mérite de l'être. Parce que je pense que nos publics, le grand public, nos citoyens sont débordés par l'information. Ils ne savent plus où donner de la tête, il y en a beaucoup, elle est multiple, elle est confuse. Nous sommes des lieux de décantation, des lieux de réassurance, puis des lieux d'enchantement.
Et alors, c'est un espace qui tourne à quel rythme, qui est renouvelé tous les combien à peu près? Vous suivez à quelle distance cette actualité scientifique, Bruno Macquart?
Alors, il y a 4 numéros par an, si je puis dire, dans nos murs, puisque nous avons des dispositifs de monstration, d'ailleurs, qui sont complétés par des propositions d'artistes, puisque nous sommes dans la vie. La science n'est pas un objet qui est posé sur une étagère au fond d'une pièce. La science, c'est la culture. Elle est même essentielle à la culture de l'honnête homme du XXIe siècle. Plus essentielle que jamais, c'est en tout cas ce que nous pensons. Et puis, évidemment, sur le net, on peut réagir instantanément. Vous avez un prix Nobel français, bien, nous lui sautons dessus.
Il paraît qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps.
Il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Il se trouve qu'on avait enregistré quelque chose avec lui un peu avant, donc on a eu de la chance. Mais quand Rosetta s'est crashé l'autre jour, ça a été retransmis en direct ici. Et puis, nous avons évidemment interviewé sur le siège, si je puis dire, les scientifiques qui nous avaient fait le plaisir d'assister à l'événement.
Et un mot encore, à l'inverse de cet espace très réactif, vous avez quelques expositions permanentes qui, elles, ont un certain âge. Comment les faire évoluer? Par exemple, je pense à l'exposition permanente sur les mathématiques. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça fait partie de vos chantiers, de renouveler un peu, puisque exposer la science il y a 20 ans, on l'a entendu, c'est plus tout à fait la même chose qu'exposer la science aujourd'hui?
Alors, c'est comme si on avait un appartement puis qu'on décidait de le refaire, mais on va le refaire pièce par pièce, puisqu'on ne peut pas faire tout d'un seul coup. Et cette maison est en perpétuel renouvellement. Elle a ouvert il y a quasiment 2 ans maintenant une exposition sur le cerveau. Et chacune, j'allais dire, de nos propositions sera revue. On va ouvrir ici, à la fin de l'année prochaine, un nouvel espace permanent sur le jeu vidéo. J'y reviens. Le jeu vidéo, c'est aujourd'hui un média extrêmement répandu. Et c'est une manière d'adresser les sciences et les techniques, le monde d'aujourd'hui, de manière extrêmement, je pense, attractive et qui va nous permettre de parler à une génération qui est celle qui est à ma gauche. Vous ne voyez pas.
Celle de Léo Grasset, d'Arty Biology. Vous êtes joueur, Léo Grasset?
Oui, oui, énormément,
bon.
Oui.
Bon, donc ça veut dire que ça vous intéresse, un espace jeu vidéo dans un musée de comme la Cité des Sciences. Pour conclure, un dernier mot, le 24 et le 25 novembre, Bruno Macquart, on va se poser des questions de muséologie scientifique sous le haut patronat du chef de l'État.
Tout à fait, à mi-chemin de nos 2 anniversaires, donc les 30 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie, les 80 ans du Palais de la Découverte, nous prenons 2 jours pour nous poser un peu, réfléchir à ce que nous avons fait, réfléchir là où nous en sommes, et puis surtout à la manière dont les choses vont évoluer. Alors on ne va pas le faire seul, parce que dans cette maison on ne travaille pas seul, on le fait en invitant nos collègues étrangers, et puis des chercheurs, parce que nous sommes en étroite relation avec le monde de la recherche et de l'industrie, il ne faut pas oublier.
2 jours de colloque les 24 et 25 novembre sur la muséologie scientifique, toute une histoire, donc avec une prise de parole du chef de l'État.
Je ne saurais le
confirmer pour le moment. Vous écoutez La Méthode Scientifique, il est 16h31. Nous sommes toujours en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la Fête de la Science qui a lieu toute cette semaine, pour les 30 ans de la Cité des Sciences. Même si c'était en mars, on a bien le droit de fêter ses 30 ans tout au long d'une année. Nous sommes bien sûr toujours en direct sur Twitter, @laméthodesc. Je vais me retourner vers mes autres intervenants, Léo Grasset alias Dirty Biology, Mathieu Vidard et Claude-Julie Parison qui est documentariste. Alors chacun d'entre vous, puisqu'on parle aujourd'hui de comment raconter, comment vulgariser, comment expliquer la science en 2016, j'ai envie de vous demander à chacun d'entre vous dans vos médias respectifs, quelle est la chose que vous avez les uns et les autres à l'esprit pour chacun de vos formes d'expression au moment de transmettre de la science. Quand vous pensez à votre public, comment est-ce que vous formulez la façon dont vous voulez vous adresser à lui? Mathieu Vidard, après 10 ans de Tête au Carré, est-ce qu'on parle de la même façon à son public et à son auditoire en 2016 qu'en 2006?
J'ai pas tellement le sentiment de parler de science, mais surtout le sentiment d'inviter des gens à en parler. Et je crois que c'est ça, en fait, le travail qu'on fait tous les jours, c'est de choisir les bonnes personnes pour parler de la science, parce que moi, je ne suis pas scientifique. J'ai jamais voulu, d'ailleurs, me mettre dans la peau d'un scientifique que je n'étais pas. Donc, c'est vraiment le travail de tous les jours qui consiste à trouver la bonne personne qui est capable de vulgariser la science. Donc, c'est ça, vraiment. C'est de trouver des gens qui racontent des histoires, qui sont capables de mettre à la portée tout le monde des recherches qui sont pas forcément très faciles comme ça d'emblée. Et donc c'est un petit peu notre préoccupation quotidienne que d'avoir le bon scientifique, celui qui au micro sera capable de faire partager ses connaissances.
Claude-Julie Parizeau.
C'est vrai que moi, quand je vais voir un laboratoire ou un scientifique, c'est d'abord si la recherche m'a interpellée. Je cherche des gens qui se posent des questions un petit peu étranges, qui pourraient sembler étranges de prime abord, mais qui à l'arrivée font véritablement avancer les connaissances et surtout essayer de les aborder d'un autre angle.
Donc, donnez-moi un exemple concret de ça.
Par exemple, dans mon dernier film qui parle de lutte biologique,
j'ai Les Nouveaux Guerriers des Champs.
Voilà, Les Nouveaux Guerriers des Champs qui parle de la lutte contre les espèces indésirables en agriculture et cette lutte naturelle qui consiste à mettre des êtres vivants, des petits organismes vivants pour lutter contre les espèces indésirables. J'étais, moi, dans ma documentation, oh là là, il y a beaucoup de ravageurs, il y a des résistances aux pesticides. Et puis, tout d'un coup, j'ai appelé un laboratoire du CNRS, de Laure Kayser-Arnaud, et au téléphone, elle me dit « Ah, mais nous, on se demande pourquoi il y a si peu d'insectes qui ravagent les cultures. » Et tout d'un coup, je me dis « Ah oui !» La question est intéressante. J'ai envie d'aller voir cette dame. J'ai envie d'aller voir ce qu'elle fait.
Et c'est le contre-pied qui vous intéresse?
Pas toujours, mais là, dans ce cas-là, j'ai trouvé ça absolument précieux d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui se posait une autre question.
Et Léo, quand vous avez l'idée d'une vidéo, vous avez un public vaste. Qu'est-ce que vous cherchez à adresser au premier chef?
C'est une question difficile. En fait, j'ai tendance à écrire une vidéo comme si j'allais la présenter à des amis. Donc j'écris comme si je parlais à des potes. Donc qui sont plutôt des gens qui ont ma culture, mon âge, etc. Ce qui est au final un peu le cas, puisque je sais qu'à peu près mon public a entre 20 et 30 ans et un public assez cultivé. Enfin, c'est pas comme si je disais que j'étais cultivé, mais en tout cas, c'est des gens qui ont fait des études. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Je fais pas vraiment d'analyse avant. J'écris comme ça me vient. C'est plus simple.
Mais dans la manière de mettre en forme, donc il y a quand même une sorte de code dans ces vidéos YouTube, il y a une rythmique, vous adressez face caméra, pour les gens qui n'ont jamais vu, on conseille votre chaîne Dirty Biology, mais comment est-ce que vous pensez ces séquences, comment est-ce que vous pensez l'articulation de votre discours en fait?
Alors il y a une bonne part en fait du travail qui est de la mise en histoire, on fait vraiment du storytelling pour essayer de rendre ce dont on va parler attractif, parce que quelque part, il faut réussir à rendre quelque chose intéressant parce qu'il n'est jamais vraiment à la base. J'ai fait par exemple une vidéo qui s'appelle
«
Pourquoi les animaux n'ont pas des roues ?» qui est une question que je pense la plupart des gens ne se posent pas forcément, mais qui a vraiment plein d'intérêts scientifiques.
Comme par exemple
En fait, c'est une roue, c'est hyper pratique, c'est hyper efficace, on s'en rend bien compte. Nous, on n'a pas de voiture avec des pattes, on a des voitures avec des roues. Et en fait, on peut se poser la question du coup, pourquoi est-ce que dans la nature, la roue est aussi rare? On en retrouve chez les bactéries, il y a quelques graines qui roulent Ah, mais chez les animaux, c'est hyper rare, donc j'explique les différentes raisons qui font que c'est rare et pourquoi ça n'a jamais vraiment été sélectionné pour la locomotion. Donc c'est un peu ça. Je pars du principe qu'on peut rendre absolument tout intéressant, que ce soit la biologie de la cucurbitacée ou n'importe quoi, enfin n'importe quel animal, n'importe quel végétal, mais il faut réussir à faire une histoire autour de ça pour créer un enjeu, quoi.
Bruno Macquart, vous venez d'ouvrir donc une exposition dédiée au Moyen-Âge à l'archéologie. Qu'est-ce qui préside, une fois de plus, ici pour la Cité des Sciences, mais en complément avec le Palais de la Découverte, le choix des expositions temporaires? Comment est-ce que vous décidez à un moment donné de vous adresser à un public en particulier, de choisir un champ scientifique particulier?
Nous aussi, on fait du storytelling. En fait, on fait tous à peu près le même métier, même si on ne le fait pas de la même manière.
Alors, c'est pour ici, ça que je vous ai invité autour de la table,
en passant. Merci, on vous en sait gré. Ici, on a des lignes éditoriales, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, on s'est posé en disant, mais finalement, si on devait catégoriser nos propositions, qu'est-ce qu'on dirait? Ben, on s'est rendu compte qu'on parlait d'histoire, l'histoire des sciences, qu'on parlait de sciences contemporaines, qu'on parlait de techniques, et puis qu'on parlait beaucoup de société et d'interaction entre la science et la société, et puis enfin qu'on parlait de culture populaire. On parle de BD, on va parler de cinéma très prochainement, et puis en fait on parle aussi aux enfants. Donc on a 5-6 lignes éditoriales et nous réfléchissons comme un média, comme une chaîne de télé ou comme un journal, en se disant qu'est-ce qu'on offre à nos visiteurs de manière à ce que ça soit varié à un instant T, varié dans le temps, et puis que nous couvrions les grands sujets qui intéressent nos publics aujourd'hui. On a un autre moyen de le faire, ce sont les événements. Une exposition, c'est 2 ans de préparation. Grosso modo, si on décide cet après-midi de traiter un sujet, vous ne le verrez que dans 2 ans dans nos murs. Si on décide de faire un événement sur un week-end, ça prend que 6 mois. Et c'est pour nous un format nouveau. On a fait quelque chose sur les drones juste avant l'été, qui a eu beaucoup de succès avec des démonstrations en public, des chercheurs qui avaient expliqué ce qu'il y a derrière. On avait des courses de drones. Et puis on va faire la même chose sur l'alimentation au mois de décembre pour préparer les fêtes. Et puis l'année prochaine, on va faire ça sur les moyens de déplacement individuels, puisque la ville se vit différemment aujourd'hui de ce qu'elle se vivait en 1986, par exemple.
Et un mot pour dire ce qui prendra la succession de Désordre mental qui finit au début du mois de novembre?
Alors, cette année, on a donc la grande exposition qui est Moyen-Âge, et puis après, on va avoir une exposition sur le Big Data, qu'on a appelé Terra Data, nos vies à l'ère du numérique. C'est le moment de se poser pour expliquer ce que sont les data, les données massives en français, et l'impact qu'elles ont sur nos vies.
Claude-Julie Parizeau, donc ça va faire une dizaine d'années que vous faites des films et du documentaire scientifique. On l'a dit, le dernier film s'appelle Les Nouveaux Guerriers des Champs. Il est toujours d'ailleurs visible sur la plateforme Arte+7. Je vous le recommande vivement. Écoutez-en un extrait.
La lutte biologique utilise des insectes prédateurs. Je suis une coccinelle auxiliaire, alliée des hommes. On me lâche dans les vignes et je mange mon insecte préféré, la cochenille farineuse qui suce la sève des feuilles. Je suis une guêpe auxiliaire et mon mode d'action est le parasitisme. Je ponds mes œufs dans le corps de mon ennemi et mes petits se développent tranquillement en le tuant à petit feu. Je suis microscopique, vers nématodes, bactéries ou virus. Les hommes m'utilisent dans des solutions. On m'appelle alors biopesticide et je rends malade mon ravageur favori en l'infectant.
Voilà, extrait des Nouveaux Guerriers des Champs. Alors, je voulais vous poser quand même cette question, Claude-Julie Parizeau, sur le documentaire scientifique. On a l'impression que le documentaire scientifique, c'est une forme qui n'évolue pas énormément. Comment diriez-vous, vous, que vous l'appréhendez aujourd'hui par rapport au début de votre carrière de réalisatrice de films scientifiques? Est-ce que c'est une forme un peu figée? Est-ce que c'est une forme qu'on peut faire évoluer, progresser?
Je pense que les images scientifiques se démodent beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et j'ai fait des choses il y a déjà une dizaine d'années que je ne ferai plus maintenant.
Par exemple ?
C'est-à-dire qu'il faut... On ne montre plus... Enfin, on n'a plus besoin d'expliquer certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, dès qu'on prononçait le terme ADN, il fallait expliquer ce que c'était. À chaque fois. Il fallait absolument donner un enjeu final à la recherche. C'était un peu une demande de la télévision d'avoir toujours un but bien, bien précis pour ces recherches. Et il est vrai, je trouve, depuis quelques années, on peut déjà passer sur des, on peut bien s'appuyer sur des prérequis qui sont connus par le grand public. Et puis l'idée quand même que cette science, elle est toujours en marche, que les choses qu'on trouve ne sont pas si définitives que ça, que des questions se posent et que les scientifiques ne cessent de s'en poser de nouvelles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue et c'est quelque chose de très agréable parce que la science, c'est vraiment ça. Pour le coup, on peut avoir un discours scientifique bien plus précis par rapport à ce qu'est la science.
Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette forme du documentaire scientifique unitaire de 52 minutes, qui est en général dans des temps d'explication très pédagogiques, très vulgarisateurs, par rapport aux nouvelles formes que sont les vidéos de YouTube, qui sont des vidéos, les vôtres, Léo, font quoi, une dizaine de minutes maximum?
Oui, ça va de 5 à 20 minutes, 10 en moyenne. Ouais.
Voilà, où on est là pour le coup sur des rythmes extrêmement syncopés, où on est vraiment sur une autre rythmique totalement. On est vraiment face à une évolution de la forme du discours audiovisuel scientifique en quelque sorte.
Moi, j'ai l'impression que tous les coups sont permis. Donc, 52 minutes, 70 minutes, comme ça va bientôt se faire à la télévision, 10 minutes sur YouTube. Moi, je trouve qu'on fait des choses différentes. Et c'est vrai, mais je pense qu'il y a une évolution quand même formellement des documentaires de télévision avec les nouvelles images numériques. C'est vrai que ce sont des outils magnifiques qui ne cessent de progresser et dont on se sert de plus en plus.
Léo, vous avez travaillé par ailleurs, vous aussi, sur du documentaire. Vous commencez à travailler sur des projets de documentaire?
Oui, alors en fait, il y a les deux. Donc, j'ai fait un documentaire à titre personnel, mais qui était là sur un rythme vraiment très rapide, très Internet, etc. Et puis là, on commence à travailler avec Arte sur un projet de documentaire télé, format 52 minutes.
D'accord, qui touchera quoi? Qui concernera quel sujet?
La sexualité humaine et son évolution biologique.
J'allais vous demander si vous alliez incarner justement ce documentaire. Alors je ne connaissais pas le sujet, mais...
Oui, un petit peu, ouais. Je serai dedans, ouais, clairement.
Bruno Macquart.
Oui, mais pour rester dans cette veine-là, il y a aussi des longs-métrages. Univers Science a coproduit la sociologue Ilou Hourson,
qui est le... Dyrène Terry.
Dyrène Terry. Et dont on a tiré des formats beaucoup plus courts, qui permettent de retrouver Dyrène Terry sujet par sujet sur des formats de 6 minutes. Nous, on a du 2 minutes au long métrage.
Mais là, Mathieu, justement, il y avait une nouvelle forme très intéressante de documentaire scientifique, c'est-à-dire l'usage des marionnettes dans ce documentaire pour parler de sociologie est une idée extraordinaire et ça a très très bien marché justement dans l'Ourson.
Léo Grasset.
Alors c'est juste pour revenir sur la diversité des formats, en fait on la retrouve juste déjà sur YouTube. Il y a donc ce portail qui s'appelle Vidéosciences qui regroupe plusieurs vidéastes scientifiques et en fait on voit très bien que juste à l'intérieur de Vidéosciences il y a une énorme diversité de façons de parler, de longueur, etc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc la fête de la science met à l'honneur cette année les youtubeurs, et on voit bien, face à cette émergence donc de ce qu'on peut qualifier de phénomène, si on le souhaite, on parle de millions de vues, hein, je sais pas combien, quelle est votre audience, Léo, mais enfin, tout cumulé, on atteint vraiment des millions et des millions de vues, pour un discours de vulgarisation, donc c'est qu'il y a effectivement un public qui est très réceptif au discours scientifique, avec ce paradoxe qui est qu'on a pourtant jamais été confronté autant qu'aujourd'hui peut-être à une mise en doute du discours scientifique et à une très forte montée du scepticisme. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe qui est que la parole scientifique est d'une partie relativement démonétisée? On parlait par exemple cette semaine dans la méthode scientifique de la vaccination. Eh bien en France, on est très très dubitatif, on est le pays le plus dubitatif au monde vis-à-vis des bienfaits de la vaccination. Et pour autant, il y a un public extrêmement large qu'on découvre grâce à l'émergence du phénomène YouTube et des youtubeurs scientifiques. Comment vous expliquez ce paradoxe, Mathieu Vida?
Il est réel. Non, mais ça c'est sûr que sur certains dossiers comme la vaccination, les nanotechnologies, les OGM, le génie génétique en particulier, il y a vraiment une crispation de la part du public. Mais vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire à chaque fois, c'est qu'il y a quand même la science, c'est quand même une porte d'entrée vers un certain optimisme et que l'idée du progrès, telle qu'on l'évoquait avant, a quand même beaucoup changé. D'abord parce qu'au quotidien, on plonge effectivement dans la science et dans la technologie, c'est ça le paradoxe d'ailleurs, et qu'on est capable de le critiquer. Mais c'est aussi une des évolutions de la science. Je pense que c'est la façon aujourd'hui dont le public s'empare de toutes ces questions. Et depuis 10 ans, avec les réseaux sociaux par exemple, c'est que vraiment le citoyen est devenu acteur aussi de la science en obligeant beaucoup plus qu'avant le scientifique à répondre à ses questions. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Mais en même temps, je pense qu'il y a un affect très fort pour tout ce qui est scientifique et technologique.
Bruno Macquart.
Je crois que notre rôle, c'est d'expliquer que s'il n'y avait pas la science, eh bien, on serait... avec des peaux de bêtes à courir dans le froid, on mourrait à 30 ans, les femmes à 25 en couche, et que on serait dans les ténèbres, et que la science, elle a apporté beaucoup de choses. Alors, ce qu'on fait ici, nous, c'est que on développe de nouvelles méthodes d'interrogation du public. Traditionnellement, vous faites une expo, puis après ça, vous demandez aux gens s'ils l'ont trouvée intéressante. On a décidé de renverser les choses et d'essayer d'inventer un moyen de les interroger en amont. Sur les big data, on a tous des représentations, et nous ici, on avait des représentations sur ce qu'attendait le public, ce dont il avait peur. Et on a réuni des gens avec un spécialiste de la concertation locale, qui s'appelle Respublica, et au étonnement, ce qu'il en est ressorti, c'est que les gens étaient moins inquiets que nous le supposions, mais que par contre, la demande de transparence, d'information était gigantesque. En fait, on nous demande d'ouvrir la boîte noire et puis de passer la lampe de poche dans tous les coins.
Léo Grasset, vous la constatez, ce qu'on pourrait appeler cette ère de la méfiance, où vous pensez qu'il y a eu une sorte de divorce à un moment donné entre les scientifiques, le discours scientifique et le grand public?
Alors, je pense en fait, ce qu'on assiste, donc ce paradoxe existe vraiment. Bon, c'est vrai que sur ma chaîne, les gens sont de toute façon très motivés pour la science, donc moi je suis pas trop confronté à ça, mais c'est vrai que ça existe. Et je pense qu'en fait c'est juste le résultat d'une absence totale de vulgarisation scientifique sur les très grands médias. Alors c'est vrai que dans la radio, ça a vraiment existé, c'est ok. Mais à la télé, par exemple, ben.
Alors, il y a eu un rapport commandé en 2012 par Manuel Valls, 754 heures de programme scientifique sur l'année 2012, dont 328 de magazines et 410 heures de documentaires, plus 15 heures de divertissement, la quasi-totalité sur France 5. Effectivement, alors la radio, bon, ben, on va pas se jeter des fleurs, mais la radio, il y a votre émission qui existe, et la science a toujours eu aussi une grande place sur France Culture. Mais la télé est dysfonctionnelle, la télé ne sait pas se saisir de cet objet qui est le discours scientifique vulgarisateur, Mathieu Vidard, à votre avis?
Il y a une peur des programmateurs et des directeurs de chaîne qui est très claire. Hein. Alors peut-être pas trop pour le documentaire, mais en tout cas pour les émissions incarnées en plateau. Enfin aujourd'hui, il n'en existe absolument plus. L'actualité scientifique n'est pas traitée à la télévision.
Oui, il faut parler du magazine de la santé qui existe et qui est une quotidienne.
Voilà, c'est ça, mais c'est le seul quasiment de la santé, sur France 5 qui est dans un domaine très particulier. Voilà. Donc la part belle est donnée au documentaire.
Hein. Claude Julie, par raison, c'est difficile aujourd'hui de proposer, de vendre aux chaînes des documentaires scientifiques? Ou est-ce qu'il y a tout de même une demande?
Alors, c'est vrai qu'il y a une demande et il y a des cases qui sont aménagées pour ce discours, mais c'est sans doute ces cases sont trop étanches. Elles devraient s'ouvrir plus. Elles sont trop, justement, cases scientifiques, vous voyez. Et je pense qu'il faudrait vraiment, effectivement, des émissions beaucoup plus de plateau, où on parle de science, de l'actualité scientifique. Ça, je pense que ça aiderait énormément. Mais c'est vrai que, pour répondre à votre question, moi je trouve extrêmement difficile c'est difficile de lutter contre certaines idées reçues, comme bien évidemment la vaccination, mais aussi, moi j'ai vu sur mon dernier film, sur cette idée que quand on introduit des insectes dans des insectes exotiques pour lutter contre les espèces indésirables, on va déséquilibrer totalement le milieu. C'est une idée ancrée contre laquelle j'ai essayé d'œuvrer dans mon film, mais c'est très très difficile de lutter contre ces choses qui sont inscrites dans la tête des gens.
Est-ce que ça veut dire que quand vous vous retrouvez face à des boîtes de production ou à des programmateurs, on vous commande plutôt des sujets qui sont un peu ce qu'on appelle les marronniers scientifiques, qu'on revient toujours à peu près aux mêmes interrogations, aux mêmes questions, qu'il y a du coup une perte de diversité dans les sujets traités en documentaire télé?
Non, ça on peut pas le dire. C'est vrai qu'il y a une vraie demande de la part des diffuseurs de répondre à des questions que les gens se posent, c'est-à-dire effectivement de parler des grands problèmes, des grandes questions qui se posent. En revanche, on peut aussi proposer des films sur des sujets dont les gens n'ont pas idée même que une question se poserait. Par exemple, j'ai fait un film sur le Rhône, la restauration du fleuve Rhône. Personne ne savait que le Rhône allait très mal. Pour tout le monde, les fleuves, la question est réglée. Voilà. Et on peut quand même encore faire ce genre de film.
Alors Bruno Macquart, est-ce que ça veut dire peut-être aussi, il faut constater que depuis une quarantaine d'années, les sciences se sont extrêmement complexifiées. Est-ce que c'est plus difficile d'expliquer les sciences de 2016 que les sciences de 1986 ou de 1976? Est-ce que c'est plus difficile de transmettre cette complexité au grand public, à votre avis?
Je pense surtout qu'on a un peu de retard par rapport au grand public. Parce que une très récente étude du ministère de la Culture sur les représentations que se font nos concitoyens de la culture a montré une chose assez nette, c'est que pour 77% des Français, la science est de la culture. Mmh. Avant le cinéma. avant la musique, avant lire la presse, avant la gastronomie, avant les voyages, juste après les musées. Alors moi, je rêve que un responsable d'antenne un jour dise, eh bien tiens, puisqu'on a des émissions culturelles, mettons la science dans ces émissions-là. Parce qu'il faut remettre la science dans la culture. À mon avis, le sujet, il est beaucoup là. C'est que la science s'est spécialisée, ce qui est un mouvement naturel, mais elle s'est tellement spécialisée qu'elle a perdu un peu le lien avec la société. Donc, il faut qu'on se retourne et qu'on regarde les gens qui, eux, nous regardent et qui attendent juste qu'on leur tende la main.
Claude-Julie Parizon, je vous approuve.
Oui, je suis entièrement d'accord qu'il faut absolument rapprocher les sciences de l'art et de la culture en général. C'est essentiel.
Alors, j'ai une autre question qui est qu'on a entendu, et c'est assez rare, un homme politique de premier plan, puisqu'il s'agit du chef de l'État, prononcer un discours scientifique pour les 350 ans de l'Académie des sciences. C'est très rare d'entendre aujourd'hui les hommes politiques ou les femmes politiques se saisir d'un discours sur la science et sur la recherche. Or, que dit le chef de l'État devant l'Académie des sciences? Il dit que finalement, les sciences, c'est bien utile pour lutter contre les charlatans, contre l'obscurantisme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce discours-là, la science, ça n'est plus quelque chose qui nous permet d'éclairer le futur, mais c'est quelque chose qui nous permet d'enlever les ténèbres du présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mathieu Didard, pour vous, l'objectif de la science, il est civilisationnel. Il doit être là pour éviter de tomber dans les pièges du présent, dans l'obscurantisme, plutôt que de nous faire rêver à un avenir radieux comme la science pouvait l'être ou tel qu'on l'imaginait dans les Trente Glorieuses, par exemple.
Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Dénoncer les obscurantismes et faire rêver, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire tous. Par contre, le discours des hommes politiques est d'une ambiguïté et d'une hypocrisie absolue, parce que quand même, quand on voit le chef de l'État ou le Premier ministre féliciter le prix Nobel Jean-Pierre Sauvage pour son prix en chimie, il faut lire absolument, il y a un article de Sylvestre Huette qui est paru il n'y a pas très longtemps.
Léo Grasset approuve.
Voilà, et qui disait que dans les conditions actuelles de la recherche et du financement de la recherche en France, jamais quelqu'un comme Jean-Pierre Sauvage n'aurait pu avoir un prix Nobel aujourd'hui, parce que les conditions sont plus du tout réunies et que dès qu'on peut faire des coupes budgétaires, on le fait. Et c'est un des gros problèmes des scientifiques aujourd'hui qui se battent au quotidien pour chercher de l'argent. Donc il faut savoir quand même que la recherche fondamentale n'est plus valorisée comme elle l'était avant et que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire sa carrière dans un seul institut de recherche comme le CNRS, parce qu'il y a des gros problèmes d'argent quand même.
Le président du CNRS, Alain Fouque, a lui-même d'ailleurs publié avec l'INSERM un livre blanc des sciences du vivant au XXIe siècle, et il dit que la science en France est sur une ligne de fracture et qu'elle risque de décrocher à tout instant. Je vous voyais approuver, vous pensez aussi qu'il y a finalement un double discours, Léo Grasset, sur ce discours public et des hommes politiques?
Ouais. En fait, moi, ce qui me gêne plus, c'est de considérer que la science, c'est quelque part une façon de sauver notre civilisation ou je sais pas quoi. En fait, ça rend la science extrêmement sérieuse et ça la met vraiment en porte-à-faux. Il y a vraiment une distance, quoi. Et justement, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut réussir à rendre la science fun, divertissante, montrer que ça peut être un divertissement aussi, de réfléchir à des choses auxquelles on réfléchit pas d'habitude, et en fait de vraiment l'intégrer dans la vie de tous les jours. Le jour où on ira voir un documentaire scientifique comme on peut voir un film de divertissement, alors là on aura gagné, je pense.
Vous y croyez? Je vous vois sourire, Claude-Julie Parizon, un blockbuster documentaire scientifique à la une des salles de cinéma.
Moi j'en rêve, parce que je trouve que ça serait tout à fait bien. C'est vrai que c'est... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Léo. Il faut absolument sortir la science de... Oui, elle est pas là pour sauver le monde. Elle est pas là. Elle lutte contre les obscurantismes. Enfin, elle est aussi. Il faut regarder l'avenir. C'est d'abord effectivement comme l'a dit Mathieu, c'est un optimisme aussi. Et ça, c'est important.
Mathieu.
Et puis il y a aussi de la science qui est très loin de notre quotidien et qui arrive aussi à faire rêver les gens. Je pense aux ondes gravitationnelles ou aux bosons de Higgs dans le domaine de l'astrophysique. Il y a beaucoup de sujets. Et les gens, on voit bien, palpitent pour ces choses-là. Même Rosetta, enfin, on a vu tout ce qui s'est passé autour de la comète Chury. C'est pourtant très très loin de nous dans tous les sens du terme. Et pourtant, ça parvient quand même à nous mettre de l'oxygène dans la tête.
Mais alors Bruno Macquart, oui.
Oui, juste le parrain de cette 25e édition de la Fête de la Science, c'est Thomas Pesquet. Il était ici vendredi
dernier, oui.
Il fallait voir. C'est une star. Les gamins se jetaient sur lui. Il a passé de nombreuses heures à répondre à leurs questions. Il était épuisé. D'ailleurs, quand il est reparti, il avait eu une permission.
Il est parti en Russie parce qu'il est en train de s'entraîner.
Oui, il avait une permission de 24 heures.
Il va avoir 6 mois pour se reposer, donc ça va.
Oui, mais les médecins étaient très inquiets parce qu'il fallait pas qu'il attrape le virus de la grippe, parce que là, il entre en quarantaine. Mais la science intéresse.
Et est-ce que, alors je vais jouer pour cette dernière question l'avocat du diable et pour revenir à ce paradoxe, finalement Mathieu, vous évoquiez le boson de Higgs et l'enthousiasme qu'il y a pu y avoir autour de ça. Est-ce que finalement on n'est pas non plus dans une période où aujourd'hui quand on parle du CERN, c'est plus facile de répandre la peur du trou noir qui va détruire le monde que de passer du temps à expliquer pourquoi le boson de Higgs complète le modèle standard de la physique des particules?
Mais c'est bonne guerre, et puis je pense que les physiciens ont tout de suite répondu aux craintes qu'il y avait autour des trous noirs. D'ailleurs, les réseaux sociaux ont eu un effet amplificateur. Mais bon, franchement, je crois que personne ne s'inquiète réellement pour la fabrication de trous noirs dans les couloirs du CERN, non?
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été ici pour la toute première émission en public de la méthode scientifique à la Cité des Sciences. Bruno Macquart, Mathieu Vidard, merci beaucoup. Je rappelle votre petit carnet rouge scientifique chez Grasset qui vient de sortir. Claude-Julie Parizon, les nouveaux guerriers des champs, est toujours visible sur la plateforme Arte Plus 7. Et puis, si vous voulez aller voir les lauréats du festival Paris Science, ils seront, les films qui ont été primés seront diffusés samedi à l'Institut de physique du globe de Paris. Léo Grasset, Dirty Biology, la dernière vidéo, elle date toujours d'il y a 15 jours ou il y en a eu une autre depuis?
Il y en a une autre qui devrait sortir en fin de semaine.
Voilà, et puis la fête des sciences, je vous rappelle que c'est jusqu'à dimanche. Vous pouvez trouver tout le programme sur fetesdelascience.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Léo Quentin à la réalisation, Elisabeth Miro à la technique, Christophe Godin, Gilles Manet, Adrien Gaza, Benoît Jégou et au droit d'auteur, Charles Barjou. Demain, eh bien, comme chaque vendredi, un vendredi sur deux, table ronde sur l'actualité des sciences et de la recherche. Nous parlerons entre autres des grands projets scientifiques du futur, les moonshots, et puis de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a de l'eau partout dans l'espace apparemment. Dans un instant, retour à la maison de la radio pour le dernier LSD de la semaine, la série documentaire de Perrine Cavron qui conclut sa série sur les diamants. Et nous, on se retrouve à la maison de la radio demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.